Alors, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à la librairie Mola. Je vous vois de loin dans la pénombre, mais on est très très content d'être là ce soir avec donc l'intervenant Eddy Dufourmont, qui non seulement a réussi à rentrer de Dubaï hier après un mois un tout petit peu mouvementé, donc je suis vraiment ravi qu'il soit vivant et présent.
Merci.
Et il est spécialiste du Japon, il est professeur des universités à Bordeaux-Montaigne, à quelques encablures d'ici, de la librairie Mola, et voilà, professeur en civilisation japonaise, auteur de nombreux ouvrages que vous pourrez retrouver en fin d'intervention sur les tables du fond de la librairie, notamment une histoire politique du Japon contemporain. Mais évidemment, il connaît et enseigne l'histoire du Japon qui va nous intéresser aujourd'hui, le Japon féodal. Et puis bientôt paraîtra aux éditions Le Bord de l'eau un nouvel ouvrage sur la notion de peuple au Japon qu'on attend avec impatience, en sachant qu'Eddy est spécialiste d'histoire politique et par exemple du transfert de la philosophie de Rousseau au Japon. Donc vous voyez un grand spécialiste aujourd'hui. Alors, ça peut paraître éloigné de ce dont on va parler aujourd'hui. Moi, je m'appelle Nicolas Patin, maître de conférence en histoire contemporaine. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a bientôt 10 ans, avec un certain nombre de camarades, José-Louis de Miras, Jason de Lestre, on a fondé une initiative qui s'appelle Montaigne in Game, où on analyse en fait les jeux vidéo. Ici, vous en avez un, mais ça, je vais y revenir. Et où on essaye de faire ce pourquoi le service public a une utilité, c'est-à-dire apporter un discours critique sur les productions vidéoludiques, sur les jeux vidéo. Mais critique veut dire, déjà, donner une épaisseur historique. Eddy va pouvoir fact-checker absolument, je plaisante, hein, chaque détail que vous allez voir dans ces jeux-là. Est-ce que voilà, la capuche des shinobi tombe comme il faut, dans la bonne couleur, en 1575, etc. Mais on essaie d'apporter aussi d'autres choses, c'est-à-dire comprendre que le jeu vidéo, comme le cinéma, comme la littérature, est une manière de représenter le passé. Et donc essayer d'éviter de tomber en permanence dans « ça c'est vrai ou faux », mais plutôt quel message et quel récit ces jeux-là, qui se vendent à des millions d'exemplaires, nous donnent sur le Japon, je vais y revenir. Et puis, de la critique au sens, comment ces jeux-là sont produits, comment ils sont reçus, quelles images sexistes parfois, il y a des biais dans le jeu vidéo de ce point de vue-là, voilà. Alors, voilà pour Montaigne in Game, vous pouvez regarder la chaîne YouTube, et aujourd'hui, en partenariat avec la librairie Mola qui nous accueille, on est à notre 3e séance. On avait par exemple accueilli Roxane Killa, maître de conférence en histoire médiévale sur le jeu The Witcher 3, qui est un jeu d'heroic fantasy, enfin de dark fantasy, mais on nous avait parlé de médiévalisme, et ça nous fait une porte d'entrée sur les jeux que je vais maintenant présenter. Pourquoi c'est une porte d'entrée? Le médiévalisme, c'est la réinterprétation contemporaine d'aujourd'hui de l'époque médiévale. Et dans les deux jeux qu'on va voir, c'est évident que ces jeux-là, le premier c'est Assassin's Creed Shadows et le deuxième c'est Ghost of Yotei qu'on va regarder ici, ces deux jeux-là dans lesquels on va aller se balader grâce à mes très très médiocres compétences de joueur. Hein, évidemment, ça, j'ai moi-même une réputation à tenir. En général, je vais me balader à cheval. Si j'arrive pas à tuer un cheval, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà, j'ai une réputation. Donc on va aller se balader dans ces jeux-là et ces deux jeux dont je vais un peu présenter se passent tous les deux en 1575, 1580 pour Assassin's Creed Shadows et en 1603 pour Ghost of Yotei. Et cette période-là, alors évidemment, si je dis une énorme bêtise, tu m'interromps tout de suite, c'est la fin de l'époque Sengoku, c'est une période d'unification des îles du Japon et donc une période extrêmement violente, ce qu'on va voir dans les jeux, où un certain nombre de pouvoirs vont essayer d'unir les différentes parties du Japon. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux jeux sont tous les deux sortis en 2025, mars 2025 pour Assassin's Creed Shadows et octobre 2025 pour Ghost of Yotei. Mais il faut souligner que Ghost of Yotei est la suite d'un jeu qui s'appelle Ghost of Tsushima, qui est sorti en 2020 et qui avait été un énorme succès. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre de gens qui ont peut-être, je ne vais pas être méchant, mais un peu passé l'âge de jouer aux jeux vidéo. Je dirais juste une chose. Ghost of Tsushima, le premier jeu de cet éditeur-là, s'est vendu à 13 millions d'exemplaires. C'est-à-dire que dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est développé par un studio qui s'appelle Sucker Punch. Aujourd'hui, des jeux comme ça, c'est des budgets de 10, 15, 20, 100 millions de dollars. Et c'est des jeux pour lesquels le succès va être au rendez-vous. Alors, pour ce qui est d'Assassin's Creed Shadows, ça a été développé par la firme Ubisoft, Cocorico, dont les jeux Assassin's Creed, qui est une grande série, sont des jeux d'infiltration et ce qu'on appelle des RPG, des jeux de rôle, qui vont visiter le passé. Alors, je ne rentre pas dans le long détail, les jeunes qui sont ici connaissent, hein, Assassin's Creed Origins pour l'Égypte, Assassin's Creed Odyssey pour la Grèce antique, etc., etc. Assassin's Creed Black Flag pour les Caraïbes, sur lequel j'avais fait jouer Caroline Lemao, notre collègue d'histoire moderne. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez Ubisoft, ces jeux-là ont créé d'énormes polémiques parce que Ubisoft est une firme qui traverse des difficultés non seulement économiques, mais un peu culturelles, car elle est souvent accusée d'être une entreprise trop woke, trop ouverte à la représentation de la diversité. Et ça, on va le voir directement dans le jeu. Un des protagonistes que vous voyez ici, c'est un samouraï noir hein, qui s'appelle Yasuke. Et ça va évidemment déclencher une énorme polémique sur la sortie du jeu Assassin's Creed Shadows. Voilà sur ce que j'avais à vous dire. Évidemment, on va parler de Japon. Et le Japon, je termine mon introduction. Vous connaissez peut-être un des grands auteurs fondateurs des études postcoloniales qui s'appelle Edward Said, qui a inventé la notion d'orientalisme. Et Edward Said, qui est très très connu, c'est l'époque de Michel Foucault, il nous explique que l'Occident a créé un Orient, a fantasmé un Orient. Et évidemment, c'est valable pour le Moyen-Orient, mais c'est valable pour l'Extrême-Orient et pour le Japon, où très souvent, le Japon, quand il est évoqué par les Occidentaux, est construit autour d'un certain nombre de réalités, mais aussi un certain nombre de mythologies, de clichés récurrents qu'on va voir à l'œuvre dans ce jeu-là. Et là, Eddie va être évidemment très utile pour nous décoder tous ces éléments-là. On le voit évidemment du manga aux animés. Donc voilà, vous pouvez aller faire un tour à la librairie Mola dans la galerie Shonen. Voilà, ça fait quasiment 200 mètres carrés à soi tout seul, j'exagère à peine. Mais vous avez évidemment... le Japon est un des seuls pays non occidentaux à avoir un soft power culturel aussi puissant, que ce soit entre les mangas, les animés, même, bon, c'est un dada personnel, mais le lien très très fort, on en parlait à l'instant, du hip-hop et du rap français avec le lien avec le Japon, depuis Ayam et l'école du micro d'argent, jusqu'à, malheureusement, Rof, PNL et Butter Bullets. Bon, je m'arrête là. Voilà pour le cadre. Il y en a qui ont rigolé, mais c'était par politesse. Donc, je m'arrête là. On va donc aller dans le Japon médiéval. Et avant que je rentre, on va commencer par regarder des cinématiques qui sont en fait des petites vidéos d'enregistrement que j'ai faites pour préparer le jeu. Juste pendant que je trouve mes vidéos, ouais. Eddie, pourquoi ouais. On dit Japon féodal et pas Japon médiéval? Tu as 2 minutes. Très merci bien. À toi.
À vrai dire, on dit les deux, en fait. Même en japonais. On okay. dit les deux, tout simplement parce qu'au Japon... on a créé cette période, donc sous le nom d'époque médiévale, époque féodale, pour justement faire un pendant japonais à l'époque médiévale européenne. Et ce, dès la fin du XIXe siècle, parce que quand les Japonais sont ouverts à la modernité, ben, ils ont vu que l'histoire en Europe s'organisait avec des notions d'antiquité, renaissance, et puis entre les deux, il y avait cette époque médiévale dont on ne sait pas trop ce que c'était. Et puis comme il fallait... faire correspondre un petit peu la marche vers la civilisation au Japon suivant ce schéma-là, on s'était dit que le Japon aussi avait besoin d'une époque féodale, médiévale, et ça tombe bien. Au Japon, il y avait des châteaux comme en Europe, il y avait des chevaliers en Europe, et bien il y a des samouraïs, donc tout ça, ça permettait de créer une époque médiévale assez facilement au Japon, très tôt.
D'accord, donc on va le voir, ça c'est une problématique récurrente sur la question de la perception du Japon, c'est le rapport à l'Occident, les questions d'originalité et les questions de, au contraire, emprunt, circulation. Alors, je reviens juste un peu plus sur le détail du récit autour de Assassin's Creed Shadows, qui est le premier jeu qu'on va analyser. On est donc en 1579, dans cette période d'unification donc par Oda Nobunaga.
1500.
Hein, comment ?
1500.
J'ai dit quoi ?
1400.
1500, pardon. 79, donc cette unification... par un seigneur de guerre, un haut militaire qui s'appelle donc Oda Nobunaga. Et ça, c'est la scène d'introduction du jeu, où en fait va arriver directement une mission de Portugais. Alors, si tu peux être attentif aux langues, si tu les entends, tu me diras.
Oui, bien sûr.
Et on va regarder une ou deux minutes qui vont introduire le personnage principal, qui est ce samouraï noir, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre numérique à la sortie du jeu. Donc on y va, on regarde ça, et ensuite je poserai un certain nombre de questions à Eddie. Donc là, on est en 1581,
pour le coup. その混迷と血しぶきの中、私に好機が訪れた。それをもたらしたのが日の本一と謳われた武将、織田信長。うつけと呼ばれたその者は、この私に興味を示した。さあ、いよいよか。
椅子の支度ができたか。
神父殿、そなたは今日信長様に拝謁するのだぞ。
ありがたき幸せ、吉野に。失敗は許されぬぞ。今日より先への旅路はますます危険になっている。織田信長の許しを得なければ、イエズス会の使命を果たすことはできぬ。それではまずいのだ。
ここまで無事だったのはディオゴのおかげでしょう。そうも野党も寄せつけませんでしたから。
ディオゴが追い払うにも限度がある。やはり信長の庇護は欠かせん。
そうなれば我らも忙しくなるでしょう。ディオゴ、君はどう思う？また海を見たいか？
いえ、そのようなことは。
君を見た。
Alors, on pourrait regarder ça pendant des heures, hein. C'est vraiment l'introduction. Là, c'est moi qui marche. Enfin, c'est une vidéo de moi qui marche il y a quelques jours. Puisque je dis tout de suite aux gens qui ont, je sais pas, 250 heures de jeu sur ce jeu-là. Je suis level 5. D'accord, hein. Donc voilà, n'ayez pas trop d'espoir. On va visiter des choses, mais j'ai pas pu avancer beaucoup dans le jeu. Alors, vous voyez que sur une séquence comme ça, qui est la séquence d'introduction, il y avait déjà beaucoup de questions. Alors, évidemment, les cerisiers en fleurs, l'univers musical. Moi, je commence par une question toute bête, même si t'as peut-être pas complètement bien entendu. Est-ce que du point de vue linguistique, c'est bien? C'est du bon japonais? Enfin,
alors, c'est du japonais contemporain. On okay. parle pas en japonais du 16e siècle, c'est bien dommage.
Parce qu'on va le voir dans les deux jeux et dans les différentes séquences, il y a des moments où les protagonistes, notamment de l'autre jeu, discutent en disant « Ah, tu comprends ce que je dis ?» Il y a un jeu comme ça sur les... Mais là, c'est que du contemporain.
Alors là, c'est vraiment des voix classiques qu'on aurait dans des jeux 100% japonais. C'est un peu plus normal. Après, ils auraient voulu faire l'effort de reconstitution historique, ils auraient pu s'amuser à parler en japonais de l'époque. Mais là, c'est vraiment du japonais contemporain 100%. Ouais.
Très bien. Alors ça, c'est pour le côté... Les jeux investissent énormément d'argent sur le côté réaliste. Et donc, tout ce qui est... Là, je vous montre pas les détails, mais on peut avoir soit en anglais, les voix en anglais, en japonais, en français, etc. Il y a même, je dois le dire, des adaptations pour les gens qui sont daltoniens comme moi, pour jouer dans mon type de daltonisme. Donc, il y a des choses assez précises. Donc ça, c'est chouette. Mais pour en revenir au sujet, alors, moi, quand j'ai vu cette séquence, et je suis, alors, je le précise, notoirement incompétent sur la question japonaise, je suis spécialiste de l'Allemagne. Alors, notoirement incompétent, j'ai lu Mishima, j'ai lu Nozaka, j'ai lu des choses, hein, mais voilà, j'aime bien, mais je ne suis pas spécialiste. Donc directement, moi, je suis un peu le naïf. Ce qui m'a marqué, c'est la présence des Portugais et des missions, des Jésuites. Est-ce que le Japon... J'ai lu sur des forums, en travaillant la séance, que le Japon était fermé. Donc ça m'a posé question. Et ce qui a fait couler beaucoup d'encre, est-ce qu'il y avait effectivement un samouraï noir à l'époque qui vient du Mozambique? Est-ce que cette espèce de figure... Elle existait vraiment à l'époque.
Alors, juste pour commencer, j'ai pas pu empêcher de tiquer sur les cerisiers.
Ok.
Alors, je vais dire pourquoi. Parce que si je me trompe pas, c'était le 8 mars.
Oui, je vais regarder.
Pas que ce soit le 8 mars ou le 8 mai 1581.
Ouais, je vais regarder. Mars.
Mars. Il n'y a pas de cerisier en fleurs le 8 mars au Japon. c'est trop tôt, alors que pourtant, avec le réchauffement climatique, c'est de plus en plus tôt. Mais même maintenant, en 2026, il est impossible pour l'instant que le 8 mars, on ait cerisier en fleurs comme ça. Alors, je sais que ça fait le Japon, mais pour le coup, c'est pas réaliste. C'est un peu bizarre.
C'est le moment où un jeu vidéo comme ça, c'est 500-600 personnes qui bossent pendant 5 ans avec des directeurs artistiques, des conseillers historiques, des world designers. des gens qui sont sensibles. Et je pense que là, quand ils verront cette vidéo, parce qu'ils vont évidemment la regarder, ils ont que ça à faire, ils vont être en position latérale de sécurité en se disant « purée, on a pas pensé au cerisier ». Alors, sur l'ouverture du Japon, à l'époque, il y a ces circulations-là
Alors, effectivement, la présence des Portugais, les noms sont tout à fait exacts. Hein. Okay. Luis Froese, c'est Vignolo, tout ça, c'est 100% réel. Et cette présence-là n'est pas du tout étrange, bien au contraire. En fait, la fin du XVIIe siècle, c'est vraiment une sorte d'apogée d'une ouverture du Japon sur l'Asie et au-delà. On dit souvent que le Japon est un pays fermé, mais en fait, ce n'est pas vrai du tout. Il y a eu tout le temps des échanges du Japon avec l'extérieur, sauf qu'il y a eu des moments un peu comme dans d'autres pays, hein, des moments de pause, de déclin. Et en fait, à partir du XVe siècle, le commerce s'est largement développé, même depuis le XIVe siècle, en fait, au point qu'on a trouvé des Japonais en Asie du Sud-Est. Donc, il y a des communautés de Japonais qui sont installées pour faire du commerce. Et c'est par le biais des mêmes routes maritimes qu'en fait, les Portugais et les Espagnols, et puis bien d'autres encore, ben, finalement sont venus en Asie et en fait sont pu arriver au Japon en 1540-41 à peu près. Donc, c'est pas du tout étrange que des Portugais abordent des côtes japonaises. Faut pas oublier d'ailleurs que Christophe Colomb, quand il est parti vers l'ouest, c'était pour trouver le Japon, Cipango. Il a trouvé autre chose entre temps, comme vous le savez, mais voilà, donc c'est pas du tout bizarre. Quant à la présence de Yasuke, alors, samouraï noir, pour moi, les deux termes me dérangent. J'évite d'utiliser le terme de noir parce que je n'y crois pas aux races. Je dirais d'origine africaine. Et les samouraïs, c'est un terme précis. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais disons qu'on va dire un guerrier, un bushi, c'est un statut. Et ce qu'on sait des textes qui ont été écrits par les jésuites que vous voyez sur l'écran, en fait, c'est a priori un esclave qui les a accompagnés. Et évidemment, comme c'était le premier Africain que Oda Nobunaga voyait, il a forcément suscité l'attention de Oda Nobunaga. Donc forcément, il était connu pour ça. Mais du coup, de là à ce qu'il devienne un guerrier, ça, c'est un peu exagéré. Il était de la compagnie d'Oda Nobunaga, mais parce que le personnage l'intéressait. Mais là, on se situe un an avant la mort d'Oda Nobunaga. Donc, de là à penser que, par le simple fait qu'il était grand, fort, etc., il a reçu des titres et le statut de guerrier avec des terres et des serviteurs et tout ça, c'est largement fantasmé, en fait.
Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est quand le jeu est sorti, donc encore une fois, Ubisoft, ça fait partie d'une industrie qui vend ce qu'on appelle des jeux de AAA, c'est des jeux extrêmement vendus. Donc, je ne rentre pas dans les détails des ventes de Assassin's Creed Shadows, il était extrêmement attendu. Et en fait, comme les gens, une partie de la droite et de l'extrême droite détestent Ubisoft pour des questions politiques aussi, en les accusant donc de faire de la représentation de la diversité, etc. D'où le fait que, moi j'ai dit samouraï noir parce que le jeu se vend surtout dans le monde anglo-saxon où malheureusement la notion de race est utilisée. Mmh. Bah, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup j'ai trouvé plein d'articles, y compris de tes collègues sérieux, essayant de montrer qu'il y avait vraiment eu un samouraï d'Afrique, parce qu'il y avait une sorte de ce que les Américains appellent « culture wars », les guerres culturelles autour de tout ça. Là, effectivement, en l'espace de 10 minutes, alors je passe, notre Yatsuke, il va se mettre au service, donc, ici, du grand seigneur militaire, celui qu'on appelle donc le premier unificateur du Japon.
Oui, parce qu'à cette époque-là, le Japon est dans une situation très différente de celle d'aujourd'hui. On n'est pas dans une société policée, japonais cultivé, poli, comme on a souvent l'image d'eux. On est dans un Japon en pleine guerre civile depuis plus de 100 ans. Voilà. Donc, c'est la baston généralisée. Et il se trouve que, au fil des guerres, il y a un personnage, Oda Nobunaga, qui est un petit seigneur à la base, qui arrive par la force des armes à commencer à se tailler un fief. Donc, il conquiert d'autres seigneuries et au point de devenir le plus important seigneur. Et il va être le premier d'une série de trois personnages qui vont tour à tour, l'un après l'autre, unifier le Japon. Les deux premiers de manière temporaire, puisque Oda va mourir un an après. Par contre, le troisième, lui, va le faire de manière définitive.
D'accord. Et ça, c'est une problématique qu'on garde en tête parce qu'on va la retrouver dans les autres jeux. C'est-à-dire, moi, qui m'a beaucoup étonné, encore une fois, je suis incompétent, mais la question des appartenances territoriales qu'on va retrouver dans Ghost of Yotei sur le nord du Japon, Hokkaido. Ah, oui. Et puis, ici, Iga. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Avec un jeu vidéo, il y a toujours l'idée de créer un récit. et une des problématiques, même si on va le voir, le gameplay en lui-même, c'est-à-dire la jouabilité repose sur des mécaniques un peu basiques, mais il y a cette idée un peu de la résistance contre l'unification. Alors là, effectivement, c'est le seigneur, mais très rapidement, alors ça, tu anticipes un peu sur ma question d'après, très rapidement, donc Yasuke se met au service, il trahit les Portugais, il se met au service donc de Nobunaga, et évidemment, on a cette séquence où il se met à se battre, qu'on va regarder là, qui est assez rapide. Six mois plus tard, on est toujours en 1581. Bon. Alors, c'est interdit au moins de 18 ans. Là, c'est le moment où c'est pas du jeu, hein, vous verrez tout à l'heure. Donc là, on a les habits du samouraï et on a voilà des scènes de grande violence. Donc toi, tu considères que ça correspond effectivement à cet état de guerre civile permanente et de violence généralisée. Comment ça se joue? J'ai pu lire que l'arrivée de Nobunaga était aussi un peu paradoxalement une période de croissance économique et démographique.
Ouais, alors en japonais, une expression pour qualifier cette période, c'est Gekokujo. C'est-à-dire, le supérieur est renversé par l'inférieur.
Okay.
Et c'est une époque où, effectivement, il y a une anarchie politique dans laquelle, en fait, il n'y a plus vraiment d'obéissance, il n'y a plus d'État. Donc, c'est chacun pour soi. Mais les recherches des collègues japonais ont montré de longue date qu'en fait, il y a effectivement un dynamisme culturel et économique en parallèle de cette anarchie politique. Et en fait, cette anarchie politique veut dire aussi liberté, donc il y a une autonomie en fait qui règne, et ce qui explique d'ailleurs que cette province d'Iga apparaît, parce que c'est l'une de ces provinces où en fait les paysans du coin, en ayant assez de voir des hordes de soldats déferler et tuer à tout va, ont décidé de prendre les armes eux-mêmes et de chasser les seigneurs. Et donc les ninjas par exemple sont nés dans ce contexte, dans cette province d'Iga justement, pour en fait servir d'autodéfense. Et donc il y a des tas de provinces qui arrivent même à devenir complètement indépendantes de facto, elles n'ont même pas de seigneurs, parce qu'elles ont pris les armes, donc les gens ordinaires, les paysans ont pris les armes, et ont chassé les seigneurs. Donc, ce Japon du VIe siècle, c'est un Japon très divers, où on peut avoir de grandes seigneuries, où on peut avoir de petites seigneuries, et puis des provinces qui sont en fait gouvernées par les gens eux-mêmes, soit au nom de la religion, soit au nom d'intérêts vraiment purement locaux. Et de ce point de vue, donc, cette scène de massacre qu'on vient de voir, c'est quelque part c'est vrai, puisque Oda Nobunaga, il était appelé le démon Oni, parce qu'il a vraiment massacré. Après, bon, je vais étiquer hein, en tant qu'historien, évidemment, les scènes là qui sont présentées ne sont pas très réalistes, pour le coup. Le massacre l'est, mais la manière de le faire ne l'est pas. Tirer au mousquet sur un paysan, c'est absurde, parce qu'un mousquet, c'est une arme très chère, on la réserve pour le champ de bataille. On ne va pas s'amuser à tuer un paysan avec ça. Surtout qu'avec le recul, à l'époque, tiré comme ça, je pense qu'il serait déboîté l'épaule plus qu'autre chose. Et le costume de Yasuke, là, c'est vraiment bon. C'est un costume d'un seigneur. Donc, quand vous voyez le casque avec la grande décoration, là, typiquement, c'est un seigneur. Et un seigneur ne va pas se balader comme ça. Il va rester sur son cheval pour servir de point de vue de tous ses guerriers pour dire voilà, allez dans cette direction, regardez, je suis là, vous inquiétez pas. Le seigneur ne combat pas en fait, sauf si c'est vraiment un cas dramatique. Donc, et puis Yasuke n'a aucune raison d'être habillé comme ça. C'est juste pas possible.
C'est donc maintenant le weapon designer qui est en position latérale de sécurité. les weapon designers, pour en avoir rencontré quelques-uns, ils sont très rigolos, ils parlent pas beaucoup et ils testent des armes pour voir quel est le recul, la balistique, etc. Parce que, encore une fois, le gameplay, c'est la jouabilité et ces jeux-là, ils sont là pour amuser les gens. Donc, je pense que le weapon designer, là, c'est une cinématique, mais il aurait dû t'embaucher, toi. Je ne sais pas qui était conseiller historique sur Assassin's Creed Shadows. Alors là, on va pouvoir se balader un peu donc dans ce qu'on appelle le open world, le monde ouvert, avec mes magnifiques 5 ou 6 heures de jeu. C'est super. Donc, on était ici à Iga, t'en parlais. On est dans la région, la grande ville, c'est Kyoto. Aujourd'hui, hein, je veux dire.
Plus à l'ouest.
Ouais. Qui est là. Donc, vous voyez, la carte est très, très, très développée. Et on va commencer par se balader un petit peu pour s'approprier le paysage. Alors, évidemment, c'est Assassin's Creed, donc je peux faire des choses comme ça, par exemple. Je déconseille de tenter ça à Bordeaux et enfin en général dans la vie. Alors je vais essayer de tout à l'heure j'ai essayé de changer les saisons, ce qui était un truc un peu sympathique, mais parce que là c'est la nuit, c'est pas très joli. Il y a eu un gros travail. Assassin's Creed est connu pour son travail d'immersion. Mais il y a eu un gros travail sur les saisons. Donc je vais continuer à me balader. Toc. Et sur le paysage, c'est pas très réaliste non plus sur la manière dont vous pouvez ou pas vous casser les chevilles. Hein. Ça, je déconseille aussi. Alors à Bordeaux, je rappelle que l'altitude maximum est de 42 mètres. Donc ça ne risque pas d'arriver. Mais ici, effectivement... Alors, c'est des détails techniques, mais qui sont importants. La plupart des Assassin's Creed sont sortis, évidemment, avant la machine que vous voyez ici, qui est une PlayStation 5. Mais ce qui fait que celui-ci, en sortant sur cette plateforme-là, il a pu exploiter de manière vraiment très forte les possibilités graphiques et qui font, alors là, c'est mon avis de gamer du dimanche, qui font que le jeu est effectivement magnifique. Et sauf que ces questions de gameplay, elles sont des questions de forme, mais elles deviennent très rapidement des questions de fond. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes en possibilité de représenter ici... Alors, on a changé de personnage, je vais y venir juste après. Hein, mais quand vous êtes en possibilité de représenter des paysages, une météo, vous allez pouvoir dire autre chose que si vous aviez juste 3 pixels qui se battent en duel et qui ne vous permettent pas de raconter la même chose. Donc là, tu en parlais, c'est quoi? C'est Omi.
Omi.
Omi. Et là, bon, j'ai décidé de prendre ça parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je me balade. Le personnage qu'on voit ici, c'est le deuxième personnage du jeu, qui est une personnage d'une jeune fille de 17 ans, qui a perdu ses parents, qui ont été massacrés. Alors, c'est exactement le même scénario quasiment que Ghost of Yotei, hein, des jeunes femmes qui vont se venger. Et c'est une shinobi. Hein, elle est. Alors, je connais pas du tout la différence entre ninja et shinobi, si tu peux...
Oui. Alors, ninja, c'est le terme le plus connu, mais le vrai terme, c'est shinobi, mais qui aurait été un terme de l'époque d'Edo, donc l'époque postérieure.
J'ai pas regardé, voilà. Voilà. C'est plutôt les Monty Python quand on coule. Là, je coule. Pardon, je vais aller. Oui, c'est très réaliste aussi sur les capacités à nager habillé dans de l'eau froide, mais voilà. Donc, excuse-moi, les oui. Ninjas.
Donc c'est un terme en fait. On a des chercheurs sur les ninjas, et en fait, les ninjas tels qu'on se les représente n'ont vraiment jamais existé.
D'accord.
C'est surtout une figure qui a été imaginée à l'époque d'Edo, donc l'époque postérieure, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé. Donc ils ont existé, mais en fait, c'était des gens, des paysans qu'on utilisait comme moyen d'information, donc des missions d'infiltration un petit peu.
D'accord.
Mais avec. Alors certes, il y a des figures connues de cette province d'Iga, justement, qui est leur lieu de naissance avec une autre province. Ils ont développé des techniques pour être discrets et. Mais c'est pas du tout l'image des types en noir qui se baladent et qui sont capables de se balader comme ça, ni venu connu, c'est pas du tout ça.
Très bien. Alors ça, évidemment, si on développe ce qu'on est habitué un peu à faire en études littéraires, c'est-à-dire l'intertextualité et tous les éléments de ce qu'on appelle l'intermédialité, c'est-à-dire le fait que ces figures-là, vous les retrouvez dans les romans, dans les mangas, un jeu vidéo qui s'appelle Shinobi de 1987, tout à fait magnifique hein, pour celles et ceux qui ont pu y jouer. C'était vraiment les débuts du jeu vidéo, pas tout à fait, mais pas loin. Et donc, on a des figures qui circulent beaucoup et qui sont voilà, des mythologies. Des
Après, il y a des personnages qui ont vraiment existé,
d'accord.
Mais qui, du coup, sont devenus des personnages de romans aussi. Donc, entre la part de l'imaginaire et de la réalité, bon.
Et Yasuke, je l'ai pas dit, hein, a été le samouraï noir, a été l'objet de plusieurs films, un manga... Enfin, un animé, pardon. Non, un manga et un animé, une série Netflix. Donc, Assassin's Creed surfe toujours aussi sur des représentations dominantes. Alors là, voilà, je me suis baladé un peu pour vous montrer le paysage et vous introduire à ce nouveau personnage, donc de jeune femme. La question que je t'avais posée un peu à l'écrit, c'est une jeune femme combattante comme ça, c'est crédible ou pas du tout?
Alors, désolé, mais c'est pas du tout crédible.
Ok.
Alors, après... Il y a des femmes qui sont connues dans l'histoire japonaise pour avoir pris les armes, mais c'est surtout des figures fantasmées et romancées dont en fait on ne connaît pas le détail. Après, ça ne veut pas dire qu'en réalité des femmes n'ont pas pris les armes pour défendre les villages. Ça a certainement dû exister, mais de là à devenir une sorte de samouraï bis capable de faire des prouesses, connaissant les conditions de l'époque. De nutrition, d'entraînement, c'est un peu irréaliste. La vraie réalité pour les femmes, notamment les femmes de guerriers, c'est d'avoir un petit poignard pour se suicider soi-même, donc se tuer en cas d'attaque, pour ne pas tomber entre les mains d'un homme et du coup de susciter le déshonneur de la famille. Ça, c'est la réalité pour la plupart des femmes, même s'il y en a pu voir quelques-unes qui ont pris les armes, c'était plutôt du côté des paysans que chez les femmes de guerriers.
Très bien, parce que là, effectivement, vous voyez, alors là, c'est toujours l'interaction entre l'analyse du jeu et de l'histoire. Assassin's Creed, qui commençait à avoir une rentabilité moins forte sur les derniers opus, s'est dit que pour une fois, parce que le début d'Assassin's Creed, au tout début, c'était de l'infiltration, c'était pas un jeu de rôle. Et donc ici, on est revenu à vraiment c'est une jeune ninja qui peut s'infiltrer, etc. Donc ce que je vous propose, c'est que, alors, c'est toi qui vois, mais on peut aller à Kyoto, si tu veux.
Allez,
donc voilà, il faut juste que tu me guides.
alors il faut que tu ailles à Yamashiro.
S'il te plaît.
Voilà, il y avait Yamashiro en grand, en fait.
Vas-y, dis-moi.
Attends.
Ah, c'est bon.
Ouais. Voilà. Donc, voilà.
On a visité un espace urbain, parce que là, vous avez vu un espace rural, semi-rural, avec évidemment des rizières, qui sont là pour marquer, pareil, une sorte de paysage mental qu'on a du Japon, qui sont réalistes.
Là, pour le coup, c'est réaliste. Hein. Ouais. Japon, pays de montagne, avec des villages ici et là. Et puis, cette ville de Kyoto, qui s'appelait Heian, en fait, à l'époque, qui est en fait complètement détruite en 1475, et au point de devenir deux gros villages vers 1530, une sorte de communauté indépendante, jusqu'à ce qu'Oda Nobunaga s'en empare. Donc, je ne sais pas ce qu'on va voir en y arrivant, mais c'est devenu une petite ville. Ce n'est plus du tout la grande capitale impériale qu'elle a été 800 ans plus tôt.
Alors, je vais voir si je ne peux pas... Désolé, c'est le moment boomer. Les jeunes, vous pouvez m'aider à méditer pour qu'il fasse jour ? Ça existe encore, ça, dans... Oui. Dans Shadow, on peut pas. Merci. Bon, voilà. Donc, on va regarder ça de nuit. Alors, voilà. C'est un jeu de parcours, si vous voulez. Donc là, je suis tout en haut d'un immense château militaire qu'on va regarder par la suite. On a donc la ville de Kyoto de l'époque.
Ouais.
Eddie a l'air totalement convaincu par cette représentation. Si tu veux, je vais sauter rapidement dans un tas de foin réaliste. Et comme ça, dans une douve.
Voilà,
on va aller regarder ça d'un peu plus loin en attendant que le jour se lève. Alors là, il y a une enceinte.
Ouais. Alors là, ce qu'on voit...
Tu peux me demander de faire des trucs. Hein. Je peux me balader, aller voir des gens.
Oui, parlons aux gens, tiens.
Je peux assassiner des gens.
Non.
C'est un peu le but du jeu. Mais... Alors lui, il a l'air peu déprimé. on va aller voir d'autres gens. Mais est-ce que commençons avant les gens. L'espace urbain, il te paraît...
Ça pourrait marcher... pour d'autres villes. Parce qu'on a des petites villes qui commencent à se développer au pied des châteaux. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est typiquement ce qu'on appelle les Jōkamachi, donc c'est-à-dire des villes sous le château. Mais ce n'est pas Kyoto, parce que Kyoto, c'est une ville qui a été construite en 800, donc c'est-à-dire 700 ans avant, selon un plan en damier à la chinoise, avec des constructions monumentales, des résidences pour les nobles. Tout ça, c'était détruit à peu près 70 ans avant la scène qu'on voit. Et ça ne peut pas être ce petit bourg-là, avec ces rues qui ne sont pas droites, pour le coup. Donc,
c'était beaucoup plus imposant
Oui et non. En fait, il y a le tracé des routes qui est resté à l'époque, avec des châteaux, des petites maisons et tout ça. C'est une petite plaine aussi. Ça fait 5 km sur 5. Et c'est pour ça que j'ai tiqué en voyant la perspective cavalière. Parce qu'on voyait plutôt quelque chose d'assez restreint, avec beaucoup d'arbres un peu partout, ce qui n'était pas vraiment le cas de Kyoto. Donc encore une fois, c'est une ville qui a pu exister à l'époque, mais pas Kyoto.
D'accord.
C'était d'autres petites villes, quoi.
Alors, j'ai une question très bête, parce que à l'entrée sur la table, vous avez ce qu'on appelle les art books, les livres un peu artistiques sortis du jeu, où les directeurs artistiques et les spécialistes vont montrer comment ils ont construit le jeu, l'architecture. Et là, c'est une question très bête, mais une partie des bâtis sont en bois. Comment on sait historiquement à quoi ressemblait la ville ? Quelles sont les sources de cette connaissance-là, si tu le sais,
Alors, je ne suis pas spécialiste de la période, donc j'aurais des scrupules, mais en fait, on a pas mal de textes de cette époque, d'avant et d'après, d'ailleurs, qui parlent des constructions. On a pas mal d'orientations sur les enluminures, donc des orientations graphiques, on en a à l'appel. Et très souvent, les techniques japonaises sont assez conservatrices dans la construction. Donc, ce qui se construit aujourd'hui encore suit à peu près les mêmes règles. Donc, ce n'est pas très compliqué de savoir comment tout ça a été construit. La chose qui est un peu bizarre, c'est l'éclairage, par contre.
Oui.
Éclairage permanent comme ça.
Dans des petites lanternes.
Ouais, ça fait un peu éclairage public qu'on a aujourd'hui. Bon.
Alors, ça m'évoque deux questions qu'on verra un peu après avec Ghost of Yotei. Là, je dis un élément, mais qui fait partie des choses qu'on trouve rigolotes dans Mountain in Game. À une époque, on avait interviewé les dirigeants d'un jeu d'époque médiévale qui s'appelle A Plague Tale. C'était aux archives départementales de la Gironde, et où on avait invité les médiévistes de Bordeaux-Montaigne. Et un de mes collègues, Ezekiel Jean-Couret, interpelle le directeur artistique en disant « Vos rues sont toutes pleines de boue, ça marche pas, c'était pas comme ça, et les bâtiments sont blancs, ça marche pas. » Et la réponse que lui a fait le game designer, c'est de lui dire « Si on fait des rues qui sont pas visibles, les joueurs se perdent. » Donc, tu vois, c'est la réponse que je pense faire sur les lanternes. Ouais. Des joueurs, quand c'est un jeu comme ça, il faut qu'il y ait des hauteurs, parce que c'est un jeu de parcours, donc il faut qu'ils puissent sauter à droite, à gauche. Alors ça, pour ceux qui connaissent, c'est la fameuse présence des ruines romaines dans Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla, c'est un jeu de vikings qui se passe en 850. Et en fait, il y a des ruines romaines de 200 mètres de haut, j'exagère à peine. Et ils en ont mis partout parce que tout simplement, il fallait que le gameplay, que la jouabilité soit là. Donc là, c'est vrai que moi, il y a évidemment ces grands châteaux sur lesquels on peut grimper et le jour se lève enfin. Mais sinon, effectivement, il faut bien voir que ces représentations-là, Ubisoft et d'autres firmes nous les vendent comme réalistes, alors qu'en réalité, elles servent tout le temps, avant tout le gameplay, la jouabilité. Alors, ce qui est intéressant, là, on voit effectivement les cerisiers et puis les différents arbres qui sont très mobiles. On voit qu'aujourd'hui, sur ces consoles-là, on est capable d'avoir une émulation quand même assez impressionnante du point de vue de la météo. Et là, bon, moi, je continue à me balader, mais évidemment, parler avec des gens, c'est toujours une mauvaise idée parce qu'ils vont peut-être m'envoyer
bête. Vous bouscler une dame.
Oui, ça fait partie du jeu. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des personnages non-joueurs. En général, on peut être assez vilain avec eux. Mais je vais pas, non, par contre, je ne vais pas exercer de violence disproportionnée. Mais voilà, donc on se balade là-dedans, donc sur cet espace urbain. Donc avant de passer à Ghost of Yotei, si tu veux qu'on aille quelque part,
on pourrait aller à Osaka.
Oui, je crois que j'ai... Ouais, on peut y aller.
Parce que pour le coup, Osaka, c'est le grand port de l'époque. Par contre, parce que là, tel que c'est orienté sur la carte, c'est le Osaka juste après celui de Toyotomi Hideyoshi. C'est pas encore celui d'Oda Nobunaga. Ah bon.
Tu peux développer. Moi, je fais Mountain in Game pour ces moments-là. Hein. C'est-à-dire pour apprendre des trucs.
Oda a un grand général qui était à la base un paysan qui est passé de paysan à général uniquement par la force de ses bras, donc comme guerrier. Et il s'appelle Toyotomi Hideyoshi. Et lui, il s'est fait un grand château à Osaka, qui est donc le grand port de l'époque. Et c'est ça qu'on voit en fait depuis la carte, avec le tracé des douves qui protège ce château, qui est du coup le plus grand château, mais qui sera le plus grand château, parce que en 1581, Toyotomi n'est encore que le général de Oda. Mais à la mort de Oda, donc un an après, il prend la succession, et après moult batailles, il devient le deuxième Oda, donc le deuxième unificateur. Il s'installe dans un grand château, qui est ce château de Osaka, que je recommande volontiers d'aller visiter, puisque c'est un très beau château.
Alors là, on est sur le toit. Alors, au passage, je fais une blague, mais un des problèmes, un des scandales et une très grosse controverse au Japon qui a été soulevée au moment de la sortie du jeu, c'est qu'effectivement, le personnage que j'incarne et l'autre peuvent visiter des lieux sacrés et massacrer des ennemis dedans. C'est remonté jusqu'au Parlement japonais, où il y a eu vraiment un gros débat sur le caractère, on va dire, anti-religieux, ou enfin, en tout cas, du jeu. Est-ce que toi, ça te paraît... est-ce que c'était une tentative pour la droite ou l'extrême droite de faire du buzz sur Assassin's Creed, ou est-ce que ça représente vraiment un vrai problème de ce point de vue-là?
Alors, quelque part, oui, c'est des paroles qui viennent de l'extrême droite, parce qu'ils ne supportent pas qu'on touche à cette image sacrée de ce qu'ils imaginent de l'histoire japonaise, alors qu'en réalité, à cette époque-là, et même avant, les gens ne se gênaient pas pour détruire des bâtiments religieux. Pour donner un exemple, à Nara, il y a le plus grand temple du Japon qui s'appelle le Todaiji, où il y a le plus grand Bouddha. Et en fait, au XIIe siècle, les guerriers du coin ont décidé de brûler le temple. Et pendant 100 ans, ce grand Bouddha est resté comme ça à l'air libre. Du coup, il a rouillé aussi, d'ailleurs. Mais pour dire qu'en fait, on ne se gênait pas de... Aucun problème. Oda Nobunaga, par exemple, il a massacré la communauté de moines du mont Hiei, qui est juste à côté de Kyoto à l'époque, en tuant tout le monde, femmes, enfants, moines, brûlant tout, il n'y a aucun problème. Donc. Par contre, évidemment, quand on développe l'extrême droite japonaise, c'est toujours embêtant de voir un étranger toucher à un jinja, alors que si c'était un japonais, je pense qu'ils n'auraient pas forcément réagi plus que
alors, ça. Là, il s'agissait du sanctuaire Itateyozu.
Alors, je ne connais pas le sanctuaire Itateyozu, mais il y en a à l'appel. De toute façon, les sanctuaires, il y en a à l'appel. Mais moi, ça ne me choque pas plus que ça, encore une fois. Alors, après, ceci étant dit, je peux comprendre qu'il soit vénère, parce qu'en ce moment, avec le surtourisme qui affecte le Japon, malheureusement, il y a pas mal de touristes qui s'amusent à faire des graffitis dans les jinja, donc qui, pour le coup, ne respectent pas les lieux. Donc, je peux comprendre que ce qui se passe maintenant a pu affecter leur vision du jeu, quoi.
Ça, on va en parler. On va tranquillement aller vers le deuxième jeu parce que la municipalité ou la région de Yotei a donné une médaille d'honneur aux deux développeurs du jeu. Parce que comme c'est un endroit qui n'est pas sur les circuits touristiques, dans le nord, on va bientôt aller visiter, les deux développeurs du jeu ont reçu un prix pour avoir mis en valeur la région de Yotei. Est-ce que, alors on termine sur Assassin's Creed, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Il y avait des douves comme ça partout, là.
Ah oui, oui, oui. Alors en fait, les châteaux japonais sont assez différents des châteaux européens, au sens où le système de défense repose moins sur la muraille que sur la douve.
D'accord.
Donc, ils sont capables de faire des douves gigantesques. Hein. Si vous allez à Tokyo, encore aujourd'hui, le palais impérial, c'est ça. Oui, Par contre, les murs sont beaucoup plus bas.
D'accord.
Parce qu'on fait des levées de terre sur lesquelles on pose cette petite muraille. Et devant la levée de terre, on fait des douves vraiment conséquentes. Donc, Osaka, le château d'Osaka, c'est exactement ça.
Alors là, je vais juste vous épargner la chose à laquelle je suis encore plus mauvais que le cheval, c'est-à-dire vraiment me battre. Et donc là, j'essayais juste d'aller voir cette douve considérable. Voilà.
Alors évidemment, on ne se balade pas avec un sabre sur le dos comme ça. Hein. C'est un classique, que ce soit une épée ou un sabre japonais, ça ne se fait pas, mais bon, c'est esthétique.
Ouais.
Alors, juste pour terminer, Yasuke n'est pas le seul étranger à être devenu un guerrier, entre guillemets. On a des exemples de deux Coréens, d'un Chinois, et puis aussi d'un Anglais, d'un Hollandais, qui, eux, sont beaucoup plus connus, parce que pour les plus âgés d'entre nous, la série Shogun, avec Richard Chamberlain, c'est comme ça qu'il s'appelait, je crois, c'est une histoire vraie. Hein. C'est un marin anglais qui a fait naufrage et qui a été recueilli par le troisième unificateur, donc Tokugawa Ieyasu, et qui, lui, pour le coup, est devenu un vrai guerrier. Il est devenu un Hatamoto, parce que Ieyasu avait besoin de cette technique d'ingénieur naval pour construire des navires. Donc là, pour le coup, je pense que la figure de ce marin anglais a un peu déteint sur Yasuke, en fait.
Mais bon, d'accord. Alors, merci pour tout ça. Moi, je passe un très bon moment. C'est mon avis. On passe à l'autre jeu, donc, qui s'appelle Ghost of Yotei, qui ne repose pas sur les mêmes mécaniques de jeu, qui n'a pas les mêmes ambitions de monde ouvert. Pas du tout. C'est une carte beaucoup plus restreinte, mais où on incarne aussi une jeune femme, un peu plus âgée de 28 ans, si je ne m'abuse, Atsu, dont la famille a été massacrée. Et alors là, je laisse pour l'instant. Hop,
allez, je réponds juste, pour oui. Là, regardez, vous voyez comment elle porte le sabre ? Ça, c'est la manière de porter le sabre. Oh.
les développeurs de Sucker Punch sont tout à fait contents, etc. Alors là, je vais juste revenir un peu comme on a fait tout à l'heure le début du jeu, pour qu'on regarde ça. Là, il y a vraiment... Le jeu a un parti pris complètement différent, qui est un parti pris poétique et graphique, où la qualité du paysage est présente, mais où, effectivement, ce qui va être mis en jeu, c'est plus une tentative, on va dire, poétique, moins réaliste, ce qu'on va commencer par regarder un petit peu là, dans les différents enregistrements, donc on regarde rapidement. Mais ça va nous amener vers le reste de la problématique de la conférence, à savoir... Le fait que le jeu vidéo, et là, c'est un peu pour guider votre regard, est très inspiré du cinéma. Et quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que dans beaucoup de jeux, les gens qui développent ces jeux-là ont en fait le cinéma, les animés en tête. C'est très valable sur les jeux les plus vendus au monde, comme GTA de Rockstar, qui est en fait une inspiration de la série Les Sopranos, ou Red Dead Redemption 2, un jeu de Rockstar, là je parle des 4-5 meilleurs jeux les plus vendus du monde avec Minecraft, etc. Mais Red Dead Redemption 2 qui est inspiré des westerns. Et là, et c'est là où ça va être intéressant, c'est que Ghost of Yotei a une grande, grande inspiration cinématographique dans les westerns japonais et notamment de Kurosawa. Il y a même, je le montrerai peut-être tout à l'heure, il y a un mode Kurosawa. Kurosawa, c'est un des plus grands cinéastes japonais du XXe siècle. Et donc vous allez voir que le parti pris n'est plus du tout celui d'un gameplay de parcours ou de tuer des méchants, même si c'est le cas, mais beaucoup plus une expérience poétique avec un gameplay qui est beaucoup moins fourni et qui a plus intérêt à une sorte de longue balade poétique. Donc là, on va regarder le début, hein, le Linky Pit, le pacte narratif du jeu où Atsu est confronté aux six de Yotei, six grands méchants. Donc on va regarder un peu rapidement et puis ensuite on aura ton retour.
この世を惑う哀れな亡者、俺は怨霊になった。忌まわしきあの夜に、それから本土へ、たった一人腹を空かせて、頼りもなく肌にあざができるたび燃える木を思い出すため、心は強く固くなになる。初めて人を斬ったのは戦のさなか、名も知らぬ兵の血を弟の刀に吸わせまくる。身内を殺した下道とも思いながら。
Là, évidemment, j'interroge deux secondes. On retombe sur les questions qu'on a déjà évoquées, hein. Une femme combattante qui plus est dans presque dans l'armée.
Ses chances de survie sont très faibles.
OK. Alors on finit juste cette petite
16歳の後故郷の蝦夷地ようやく戻ると決めた皆の仇を討つためあの世で皆に会うため予定6人衆は
pour situer les choses, là pour le coup, ça se passe à Hokkaido, ce qu'on appelle aujourd'hui Hokkaido. Mais à l'époque, ce n'est pas le Japon. Ce qui est écrit d'ailleurs, sur, c'est Emichi-shi, c'est-à-dire l'île des Emichi, l'île des Ainu. Donc ça ne fait pas partie du Japon à l'époque. À ceci près qu'il y a un clan de guerriers, le clan des Matsumae, qui a pris pied sur l'extrême sud de l'île, ce qui va permettre justement à l'héroïne d'être sur l'île. Mais il faut voir qu'en fait, techniquement, on n'est pas au Japon, en fait.
Alors ça, on va le voir, peut-être pas, je vais reprendre mon cheval et aller voir. Il y a un moment où on croise des Ainu, okay. Et on leur parle, donc peut-être je vais réussir à faire ça. Là, c'est encore la
vidéo. Tu peux aller Ainu, hein, par contre.
Je crois pas que je puisse le faire. Alors, pouvoir et réussir, là, c'est encore autre chose, mais voilà. En tout cas, on finit de regarder cette introduction, et après, je vais essayer d'aller voir les Ainu. Alors, l'instrument qu'elle porte dans le dos est très important dans le jeu. Hein. Elle passe son temps à en jouer, c'est intégré narrativement. Et la première mission de gameplay, c'est de tracer les idéogrammes, j'ai envie de dire, mais des gens qu'on a envie d'assassiner. Donc, alors, avant de faire les manipulations techniques, donc là, voilà, c'est le grand méchant qu'on commence par aller chercher, c'est le serpent, qu'on va ensuite affronter. Voilà, donc là, c'est pas moi qui joue, hein, c'est une vidéo. Ça m'a pris à peu près 17 fois, évidemment. Et là, évidemment, vous voyez que c'est pas du tout réaliste, c'est-à-dire que non seulement sur la capacité à se battre, mais les coloris, la direction artistique n'a pas du tout le même objectif. La maison est en feu derrière, on n'est pas dans quelque chose de réaliste, on est dans quelque chose de l'ordre du western, on va y revenir tout à l'heure. Donc voilà un peu, avant de passer dans le monde ouvert, cette logique de la vengeance personnelle, Onryo, ça te parle? C'est des choses que tu connais? C'est des clichés traditionnels dans les...
Oui, ça existe. Le plus connu, c'est les 47 Ronin.
Ok.
Qui a fait l'objet d'un film d'ailleurs assez récemment. Mm-hmm. Donc oui, les affaires de vengeance, ça existe. Le shamisen, c'est une invention de l'époque en fait, et je crois que c'est le shamisen de Tsugaru, qui est la région juste au nord de Honshu, enfin en face de Hokkaido. Donc, ça pour le coup, c'est tout à fait crédible. Okay. Par contre, se battre avec un chapeau comme ça, non,
mais on sent que tu as beaucoup d'entraînement. Et je me demande, je pense que la salle se demande aussi si finalement tu serais pas une sorte de samouraï de shinobi caché.
Non.
Tu sais beaucoup trop de choses sur les manières de se battre. Alors, je vais essayer de retrouver déjà l'escalier pour descendre, l'échelle, et on va aller se balader dans le paysage. Donc, là, pour l'information, je dans cette scène là, alors on va peut-être la passer après, mais je viens de massacrer tous les méchants qui étaient dans cette auberge. Dans une scène, alors pour le coup, très très western. Je vais voir si ça m'attire des ennuis. Ok. Bon. Alors, j'ai dit qu'elle avait 28 ans dans la première vidéo que vous avez, elle avait 12 ans. Et là, on va essayer de regarder la carte. Donc là, la carte est, alors j'ai vraiment pas beaucoup avancé, est beaucoup plus restreinte, hein, et le mont Yotei est là et sert un peu de visée. Et c'est une histoire de vengeance, hein, qui va se dérouler là-dedans. Donc on va un peu pouvoir se balader, si je me souviens comment appeler le cheval. Comment ? Alors le problème, voilà. Hop. Donc vous voyez que là, effectivement, on pourrait croire que c'est les mêmes graphismes, mais en réalité, typiquement sur des logiques de jouabilité, votre cheval, il va plus vite quand il court dans les fleurs blanches. Donc là, on est vraiment, vous voyez, tout disparaît. Il n'y a plus de marques des différents de la manette, etc. On est vraiment dans une expérience poétique qui vise à profiter de ce paysage-là. Et il y a assez peu, en fait, de missions subsidiaires à réaliser. Alors ça, c'est effectivement, pour moi, je suis jamais allé au Japon, je dois dire. J'ai beaucoup voyagé dans beaucoup d'endroits, mais pas au Japon. Pour moi, ça renvoie un peu à ce cliché d'un pays... magnifique en permanence, où il y a toujours des paysages. C'est peut-être très réaliste, hein, j'en sais rien. Est-ce que ça ressemble à Hokkaido ou...
Alors, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'aller à Hokkaido, mais je me suis renseigné un petit peu sur le jeu, et a priori, la présentation des paysages est vraie. Faut juste savoir que Hokkaido, c'est une île dont le climat est très différent du reste du Japon. C'est un climat quasiment sibérien, en fait.
Ok. Alors... Et juste, comme je te l'ai promis et que j'ai raté mon coup, je vais aller voir les... Je vais aller trop vite. Ils sont où les Ainu, là? N'hésitez pas, si vous êtes meilleur que moi, à me dire où ils sont. En disant, à gauche, monsieur. Où est-ce qu'on est? Non, on arrive, c'est bon. Ils sont en train de camper. Ou pas. On va y arriver. Parce que vous doutez bien que le problème, c'est que travailler tout ça un peu... Ah non, là, je suis en train de retourner à l'auberge. Je ne sais pas. Il faut évidemment apprendre par cœur toutes les... Non, ils sont partis, en fait. Ils m'ont abandonné. Je le vis très mal. Je vais plutôt retourner dans mon ancienne maison. Voilà. Mais apprendre tous les contrôles de tout ça, quand le seul jeu que j'ai fait de manière massive ces 15 dernières années, c'est GTA. En fait, du coup, GTA 5, du coup, ça, tout de suite, ça peut très, très mal se passer. En fait, donc là on va chevaucher. Donc là on voit l'inspiration cinématographique, hein, ne serait-ce que dans le cadrage. Vous voyez où il y a, on est quasiment sur du 16/9e. Et puis je vais j'ai chevauché jusqu'à mon ancienne maison, qui a évidemment été dévastée. Hop. Voilà, donc ça c'est très très réaliste de sauter d'un cheval comme ça. Et là, voilà, alors ça c'est évidemment, il y a tout un ensemble ici de, d'aspects poétiques dans le jeu où on parle, voilà, on peut alterner entre le passé et le présent. Donc il y a des choses qui sont très tournées vers, vers les, le monde des fantômes, le monde des morts. Donc là, on va par exemple essayer de, d'aller voir. Donc ça, c'est la forge du papa de Hatsu. Et je pense qu'on peut aller, d'une certaine manière, ressusciter l'image de son frère.
Alors là, pour le coup, je trouve que c'est très, très japonais.
Oui.
Parce que la littérature médiévale de l'époque, c'est... consiste souvent à faire revenir des morts et à dialoguer avec les morts.
D'accord.
Donc là, pour le coup, je trouve que c'est pas mal.
D'ici, est-ce que je retrouve la manière dont je peux évoquer, au lieu de faire n'importe quoi, d'évoquer mon cher frère disparu. Merci. Je les ai pas payés, hein. Je savais pas qui viendrait. C'est juste, voilà. Appuyez beaucoup. Je crois qu'il y avait... Alors, attends. Hop. Il y a tout un tas de... Appeler le vent directeur, dégainer, s'incliner. Je peux jouer du shamisen, je sais pas comment on dit.
Shamisen.
OK. Alors ça, évidemment, bon, c'est le côté musical. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est juste pour montrer qu'on pouvait le faire. Et là, alors peut-être que je l'ai déjà fait, c'est peut-être ça, mais... Non, c'est toujours pas ça. C'est pas grave, on va pas faire ça, mais... En tout cas, ici, c'est la maison natale où donc la jeune fille qui avait un frère jumeau s'est entraînée avec son père à devenir de la même manière une sorte de... Alors, pour le coup, c'est pas de, il y a pas d'évocation de shinobi ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Pourquoi ça ne veut pas marcher? Désolé, je peux faire un grand hurlement ninja. Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est pas ce qu'on attend de moi. Et donc, c'est effectivement, pour toi, ça te paraît assez réaliste, ce côté... Il y a un va-et-vient permanent dans le jeu, entre le passé... Alors, ce qu'on a vu quand elle avait 12 ans et qu'elle a été attaquée par les six de Yotei, et le présent. Mais il y a aussi cette espèce d'arc de rédemption et de vengeance très propre au western.
Oui, oui.
Et du coup, je vais juste regarder si je peux, mettre le mode... Je vais vous montrer le mode... Kurosawa. Pardon.
Désolé.
Voilà, on va mettre ça, si ça vous dit. Qui, du coup, va... Et vous voyez, alors, ça te parle ? Miike Watanabe ?
Je ne connais pas non plus.
Alors, de ce que j'ai lu à droite à gauche, c'est très rapidement, c'est un réalisateur de western, assez connu au Japon, mais quand on est fan de western japonais, hein, ce qui est pas...
Alors, d'ailleurs, il faut savoir qu'en fait, il y a un mode, enfin, un genre de films qui se passent avec des samouraïs qu'on appelle Chambara et qui en fait sont inspirés des westerns mais qui se passent au Japon de cette époque-là. Mm-hmm. Donc avec une sorte de vengeance, de meurtre, etc.
D'accord. Donc, alors là, on est passé en mode Kurosawa, donc on voit le côté noir et blanc. Alors ça c'est assez inédit dans des jeux de cette ampleur-là. Il y a plein de jeux indépendants qui développent des visions tout à fait différentes, mais là effectivement pour les fans de Kurosawa on peut avoir cette vision là donc en noir et blanc qui va accentuer l'expérience cinématographique. Je vais essayer de terminer sur la dernière capture que j'ai faite, donc c'est le début de cette attaque. Alors là c'est le début du jeu, c'est quand on chevauche. C'est, alors pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, c'est le tutoriel, c'est des scènes souvent très très écrites et très cinématographiques qui vous apprennent à faire des sauts de 15 mètres de haut en cheval. Donc là, on voit toujours cette inspiration cinématographique qui se présente quasiment comme un jeu. On a une présentation, voilà, le générique de début, Sony étant une marque japonaise. Et on voit, voilà, ça c'est des jeux, on le voit beaucoup dans Red Dead Redemption 2, mais jeux sur le rapprochement et la longueur du cinématographique pour accentuer cet aspect cinématographique, pardon. Donc voilà pour cette petite balade qui était avant tout pour signaler ce caractère, la différence qu'on peut avoir sur une représentation de la même période. Ça se passe en 1603. Donc on est un peu dans la même tendance historique d'unification, mais dans une zone, comme tu l'as souligné, qui est en fait en dehors du pouvoir, quoi. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, on voit deux œuvres artistiques un peu différentes qui n'ont pas les mêmes objectifs. Mais alors, je me suis posé une question toute bête, je conclurai là-dessus. Je me suis dit, bon, comment ça se fait que deux grandes firmes, alors très grandes pour Ubisoft et moins grandes pour Sucker Punch, mais sortent un jeu sur la même période, la même année. Et en cherchant le début du développement de Assassin's Creed Shadows, en fait, ils ont commencé à le développer aussi dans le sillage de Ghost of Tsushima, donc le premier. Donc là, effectivement, on sent qu'il y a eu un peu une concurrence. Il se trouve que les deux jeux se sont vendus à des millions d'exemplaires. Hein. Pour le coup, Assassin's Creed a fait un très bon résultat sur ce jeu-là. Alors, sur diverses plateformes, parce qu'aujourd'hui, on ne joue plus comme avant sur une seule console qu'on achète comme moi en dur, etc. Mais du coup, on voit bien que ça, ces deux jeux-là ont suscité d'une certaine manière, et c'est ça qu'on attend d'eux, c'est un peu ma conclusion optimiste. Certes, comme là, avec beaucoup de précision, l'a souligné Eddy, il y a des erreurs, mais en fait, ce qui se passe, c'est que deux jeux comme ça, qui se vendent à beaucoup d'exemplaires, ben, jettent une lumière intéressante sur une période du Japon qu'on connaît, à titre personnel, et que beaucoup de gens ne connaissaient pas, et qui permettent de le regarder et de le vivre de manière très différente. Donc on peut maintenant voilà, arrêter cette phase-là et passer à vos questions, et applaudir Eddy, en le remerciant beaucoup d'être arrivé vivant.